hors champ. Bonjour à toutes et à tous, hors champ aujourd'hui avec Carole Benzaken. Carole Benzaken, vous êtes peintre. Vous avez commencé il y a une trentaine d'années. On vous a découvert dans votre atelier, puis très vite vous avez exposé. Et quand vous avez commencé à exposer, c'était des tulipes. Des tulipes de différentes couleurs, de différentes formes. Et je me demande si ça faisait allusion à l'histoire de la peinture, et notamment à la peinture flamande des XVIe et XVIIe siècles, où la tulipe, généralement, était auprès de la vanité.
Oui et non, en fait, même, je dirais catégoriquement non, dans le sens où, au départ, c'était plutôt une prise de position-possession, je dirais, des atouts de la peinture, mais dans un rapport beaucoup plus trivial à l'imagerie, je dirais, qui m'environnait et qui était venue jusqu'à se trouver dans ma boîte aux lettres. C'était partie de catalogues de fleurs par correspondance de vente. Donc, oui et non, parce qu'en fait, bien sûr, j'ai eu une formation aux Beaux-Arts et donc j'ai une formation aussi d'histoire de l'art, en histoire de l'art, qui peut-être m'a permis de, inconsciemment de basculer sur un tel sujet. Mais c'était plutôt la dimension de rupture déjà avec l'école. C'était une position de saisie de mon premier atelier qui se trouvait au Kremlin-Bicêtre, en bordure du périphérique, et avec un environnement, je dirais, d'image qui était plutôt agressive pour moi, et qui était, je dirais, le condensé de tout ce que je n'osais pas faire dans mes années d'études. Donc c'était un petit peu le franchissement d'un tabou, et ça c'est une récurrence dans ma vie, je dirais jusqu'à aujourd'hui, de ma vie de peintre et d'artiste. C'était vraiment lié au présent, dans ce rapport au présent des images. Ceci dit, ce présent, on sait qu'il n'existe pas, qu'il est à la fois passé et futur. Il est empreint de... Le présent est un temps qui vaniche, qui disparaît dans un passé et qui plonge dans un futur permanent. Donc on est dans ce rapport au tempo, je dirais, qui peut basculer effectivement à la vanité, réellement dans son rapport au temps et dans cette saisie du réel par la peinture, mais liée à... Je dirais aux images qu'on ne voit pas, parce que les images qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres, généralement. Donc c'était plutôt de l'ordre de ces rebuts de l'histoire du présent, par les images qui m'environnaient à l'époque.
Vous êtes une collectionneuse, vous gardez justement tous ces magazines, tous ces objets de la vie quotidienne dont on ne sait que faire, et puis vous allez les recycler artistiquement dans différents cycles de votre œuvre, Carole Benzaken. Mais pour revenir à ces tulipes, ce qui était remarquable quand on vous a découvert sur la scène artistique française, avant que vous n'obteniez le prix Marcel Duchamp, c'était qu'il y avait différents formats, qu'il y avait une vibration de la couleur et de la matière, et que d'autre part, les toiles, quand elles étaient de grand format, elles étaient suturées. C'est-à-dire qu'il y avait un côté délibérément... artisanal dans cette manière de rendre la matière de la peinture.
Absolument, c'était tactile, physique, je dirais sensuel, réellement dans ce rapport à la peinture de jubilation, je dirais, du matériau, tout en reconstituant quand même, et c'était dans ce basculement en fait permanent dans lequel je me trouvais, de recomposer, je dirais, par une construction en grille, en structure, la peinture dans ses pulsions. Donc il y avait une dimension construite, mais totalement pulsionnelle dans la recomposition et la saturation de la surface du tableau.
Nous allons écouter la voix de Fernand Léger. Il va parler des couleurs et de la peinture cubiste. C'est une archive d'une émission qui s'intitulait « Qui êtes-vous, Fernand Léger ?» du 18 mai 1950.
Je voulais vous demander, est-ce que vous avez une ou des couleurs préférées ?
Oui, moi, comme tout le monde, j'ai le jaune. À tel point que j'ai eu une exposition une année chez un marchand de tableaux. J'étais effrayé quand j'ai vu que tous mes tableaux avaient du jaune. J'ai voulu reculer le vernissage pour retoucher ça. J'étais absolument inquiet de cette chose. Le jaune est ma couleur.
Comment pensez-vous que cette succession de couleurs se déroule dans la peinture ? Que par exemple, pendant un certain temps, les gens n'aiment pas les couleurs claires. Et puis brusquement, ils se remettent à aimer les couleurs claires. Puis après, ils ont assez des couleurs claires. Est-ce que vous croyez
que ça... Le public,
ça...
vous parlez du public.
Même des peintres.
Moi, ça, alors, c'est une question aussi animale, presque, n'est-ce pas ? Malgré tout, je crois, avec une dominante, comme je vous dis. Surtout, chacun a sa couleur. Conscient, inconscient. Et chez les peintres, elle est quelquefois tragique, n'est-ce pas ? Parce qu'il faut s'en débarrasser. Alors, après mon histoire du jaune, je suis resté 3 mois ça, en supprimant les tubes jaunes. J'ai beaucoup de mal de remplacer mon jaune, comprenez-vous ?
Mais vous ne croyez pas qu'il y a des raisons générales, en quelque sorte, sociologiques, qui font que tout à coup on en a assez du sombre et assez du clair, même dans la peinture ancienne, et dans la peinture moderne c'est très éclatant, n'est-ce pas ?
On va vers l'intensité, naturellement. Mais je crois que vous n'obtiendrez pas de réponse d'un peintre, il ne sait pas, vous savez. Moins il sait, plus il est
bien,
meilleur il est, meilleur il est. Le contrôle de ça est négatif. Nous sommes des instinctifs avant tout.
Oui, bien sûr, vous aimez le jaune et puis on ne peut pas savoir pourquoi.
L'école cubiste, c'était une école froide et calculée, mais pas le moins du monde. Les premiers croquis, les premiers dessins que nous faisons, ils sont faits comme ça impulsivement. Mais alors on organise cette trouvaille, comprenez-vous ? C'est là le fait des grands constructeurs. Tandis que les impressionnistes n'organisent pas la trouvaille, ils la continuent, n'est-ce pas ? On organise une trouvaille, en tout cas pour moi. Et quelquefois, l'organisation est moins bonne que la trouvaille. Je suis en conflit avec ma première esquisse et mon tableau. Je ne certifie pas du tout que le tableau sera meilleur.
Comment réagissez-vous aux propos de Fernand Léger, Carole Benzaken ?
Je trouve ça excellent et absolument délicieux. Je ne sais pas comment l'exprimer.
Mais vous n'avez pas de problème avec le jaune. Vous, on peut dire que vous
non.
êtes un peintre de la couleur, que les couleurs vibrent, qu'elles sont vraiment omniprésentes dans les différents cycles de votre itinéraire de peintre, mais que au départ c'était la couleur franche, c'était pas le jaune, mais c'était plutôt le rouge, le rose.
C'est toutes les couleurs. Moi, j'ai une tendance à avoir des phases et pas rupture permanente. Donc j'ai des phases extrêmement colorées. Enfin, j'ai traversé des phases extrêmement vives et hautes en couleurs en utilisant quasiment les couleurs du tube, donc sans les mélanger, le jaune comme jaune pur, cadmium, le rouge, cadmium, mais également, parce qu'aujourd'hui on me reproche d'avoir abandonné la couleur, par exemple, on me reproche, c'est un bien grand mot, mais effectivement, même dans le noir et blanc, je suis dans la couleur. Je crois que j'ajouterais quelque chose personnellement, c'est que je n'ai pas de couleur préférée. J'en ai eu dans le temps des tulipes, c'était le vert, bizarrement. Il y avait du vert, hein, il y avait des tiges, mais c'était quand même pas le sujet principal. Mais aujourd'hui, je peux dire, je n'arrive pas à prendre une décision d'aimer une couleur plus qu'une autre. La chose que je rajouterais, c'est que pour moi, la couleur n'est pas dissociable de la relation. Il n'y a pas la couleur isolée. Donc, il n'y a pas de couleur. Je ne peux pas remplacer une couleur par une autre parce que je ne peux pas aimer une couleur par rapport à une autre puisque je suis dans ce collectif, cette pensée du collectif qu'est le tableau ou même la vidéo ou même le dessin, c'est la relation des choses entre elles. Et rentrer en relation avec le monde, dans cette vibration où peut-être l'endroit du leitmotiv c'est de mon parcours, c'est vraiment la lumière. Aujourd'hui, je peux en faire un bilan. S'il y a une trajectoire, c'est de chercher constamment la lumière.
Vous venez de le rappeler, Carole Benzaken, vous utilisez beaucoup de registres de l'art, vous faites effectivement des vidéos, des dessins, des tableaux, vous utilisez toutes les couleurs, vous avez eu des cycles où vous n'avez utilisé que le noir et blanc. Je crois que vous êtes une peintre des images, est-ce que vous acceptez cette définition ?
Oui, tout à fait. tout à fait dans le sens de l'ouverture de ce qui est ce que propose l'image. Je pense à un titre de Mitchell, TGW, j'ai pas les initiales de son, mais c'est What does image want? Qu'est-ce que veut l'image? Je cherche dans l'image, ça peut être tout est l'image. Tout est potentiellement image. Un papier froissé, un papier abîmé, avec des empreintes de pas dessus, est une image. Bon, tout ce qui relève d'un support tactile, que ce soit papier, écran, ou photo, ou dessin d'enfant trouvé dans la rue, carte postale déchirée, est une image. Mais ça peut être le dos de cette carte postale. L'image n'est pas forcément l'endroit du visible, aujourd'hui. Ceci dit, ce qui est image pour moi, c'est vraiment l'endroit où on peut passer, on peut être à la surface d'eux. Ça, c'est une des merveilleuses possibilités qu'offre l'image, c'est sa surface. Et en même temps, on peut aller derrière. Ce qui se passe derrière la façade et la protection de l'image, sous la peau, l'image, et aller dans la structure de son sens. Ça peut être un lieu, ça peut être une histoire, ça peut être des histoires. En général, il y a un pluriel, donc il y a une relation. Et dans ce jeu de relations, il y a pour moi l'aventure réelle picturale, d'un ensemble de possibles, d'un ensemble de multidirectionnels, qui est quasi cubiste. Et dans ce sens, j'apprécie énormément la référence à Fernand Léger.
Nous allons écouter la voix de Gilles Deleuze qui va parler des images. C'est un extrait de son séminaire du 2 octobre 1982 dans lequel il évoque Eisenstein.
Et chercher quels étaient les rapports image-pensée, selon Eisenstein. En essayant de mettre de l'ordre dans ces textes très complexes, je vous proposais, mais c'était uniquement une proposition, de distinguer deux mouvements. Et ces deux mouvements, on les a vus, je les résume très vite. Il y a un premier mouvement, il me semble, qui va de l'image conçue comme perception, c'est-à-dire de l'image percepte, au concept comme conscience de soi. C'est-à-dire de l'image percepte à la pensée. Et cette première dimension, je disais, c'est ce qu'on pourrait appeler le plan d'organisation et de développement. Et cette organisation et ce développement qui vont de l'image percepte au concept se fait par l'intermédiaire de dominante de l'image et d'harmonique de l'image. Mais dans cette première direction, vous remarquez que harmonique est pris en un sens très précis, qui est le suivant. Une image visuelle aurait des harmoniques dans la mesure où elle formerait des agrégats avec des données non visuelles. Au point que Eisenstein va jusqu'à nous dire que même dans le domaine musical, les harmoniques d'un son ne sont pas seulement sonores, c'est-à-dire elles ne sont pas entendues, elles sont senties. Elles sont senties au sens, comme il dit, d'une sensation totalement physiologique. Donc, les harmoniques de l'image visuelle nous font passer d'une perception visuelle à ce qu'il appelle lui-même un « je sens ».
Nous venons d'entendre la voix de Gilles Deleuze parlant des théories d'Eisenstein, et je pense que c'est un théoricien qui a beaucoup compté pour vous, Carole Benzaken.
Absolument, absolument, je suis très touchée de ce moment, de sa parole. C'est un homme de la parole, du temps et aussi du percept. Et réellement, je vibre, enfin, j'ai été nourrie par la pensée de Deleuze. Absolument, absolument, à tous les niveaux de la sensation, y compris dans le maintenant de son écoute.
C'est, quand vous dites percept et quand on voit des photos de vous dans les différents catalogues sur votre travail et qu'on vous voit dans votre atelier, on a l'impression que vous êtes complètement dans le tableau et que physiquement vous emparez de ce tableau et qu'il y a une fusion quasi corporelle avec justement ce percept.
Oui, absolument. Et c'est le point de départ. C'est le point de départ qui est un point d'aveuglement total, en fait. C'est l'endroit du faire et de l'intuition, de ce pressentiment avant le ressenti. Et je pressens que cette image est pour moi, je l'absorbe dans une forme de digestion par la peinture, et elle m'envahit, elle devient quelque chose qui devient sujet. Mais je ne sais pas pourquoi au départ, jamais. Donc c'est vraiment effectivement ce rapport du passage du percept, et puis progressivement dans le creusement, avec les moyens du faire, fait main, que ce soit la peinture, le dessin ou autre, mais...
Ou les vitraux des églises que vous faites aussi.
Absolument. Dans ce rapport de transformation et d'absorption, c'est à la fois un dedans et un dehors. Et progressivement, quelque chose arrive qui est de l'ordre du sens, mais qui est un sens non préconçu. Et c'est là où on passe effectivement du percept au concept. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pensée conceptuelle dans mon travail. Tout est dans le faire du percept et du ressenti. Ceci dit, une pensée émerge et une logique de sens dans la construction autant de mon être que d'un corpus se fait évidence, se propose comme évidence. Et c'est là où on se rend compte qu'on est vraiment choisi par des sujets ou par des images. On est choisi par la peinture, on ne choisit pratiquement rien. Et ça paraît un petit peu étonnant par rapport à mon propre discours, puisque j'ai un discours aussi construit, qui peut être un peu surprenant par rapport à l'origine de comment les choses se font dans l'atelier. Mais effectivement, de là arrive, émerge aussi, un discours, mais des mots aussi, des pensées qui peuvent se traduire par une analyse rétrospective de ce que j'ai fait, qui peut être une rétrospective d'un jour ou d'un mois ou d'un an.
Comment, Carole Benzaken, le travail sur les textes de la Shoah vous a entraîné artistiquement et vers où ?
C'est plutôt l'histoire que les textes, au départ. C'est la confrontation au lieu imprégné d'histoire et au lieu détruit dans la mémoire collective, à plusieurs niveaux. Ça, c'est parti de Pologne, donc on peut repartir sur Bielsko-Biała. L'origine, je dirais, de tout ce parcours où finalement ce ne sont pas les textes sur ou de la Shoah, mais j'ai eu recours aux textes et aux textes bibliques à un niveau qui a dépassé complètement, je dirais, ce seul projet géographique d'origine de Pologne, de Silésie, mais qui s'est déplacé comme je me suis, moi-même déplacé dans le sujet. Et hors des frontières du sujet. C'est la question de la migration, en fait, d'un texte qui peut essaimer, d'un texte, le texte d'Ézéchiel 37, versets 1 à 14, mais au-delà des questions de mise en image, des questions de mise en image sur des sites spécifiques et dont le sens est produit par leur histoire, les sites spécifiques des lieux dans lesquels je suis appelée à exposer. Aujourd'hui. Alors c'est un petit peu paradoxal, ou on pourrait dire, en tout cas surprenant pour, l'image que j'ai d'être une artiste qui pratique la peinture, et en même temps, ça a beaucoup de sens. C'est la quête d'un déplacement de la mise en image à la mise en espace de l'image.
Comment la mémoire des lieux vous travaille-t-elle ? Et pourquoi est-ce si important d'aller sur les lieux ?
Je dirais que un petit peu à l'image de, ou à d'une façon très parallèle à, la question d'être choisi par un sujet. On est choisi par des lieux, on est choisi par des géographies. Et c'est toute l'histoire, de ma propre vie individuelle. Je n'ai pas forcément choisi d'aller en Pologne, comme je n'avais pas choisi d'aller à Los Angeles. Ces lieux m'ont choisi et j'avais, à vrai dire, pour une géographie et l'autre, je ne voulais pas y aller. C'est sur cet axe d'un non-désir, d'une répulsion plus qu'une attraction, que c'est produit, je dirais, du sens au lieu dans lequel j'ai été invitée à exposer.
À partir de quel moment vous avez décidé de changer de support et d'utiliser d'autres matériaux pour vous exprimer artistiquement ?
On pourrait repartir encore au calendrier grec personnel, mais je dirais que c'est la technique de la peinture dans le verre, dans des technicités, je dirais, autres que la peinture, dans son sens non translucide et opaque sur un support ou rigide ou en tout cas texturé comme une toile, qui a produit au fond des questions de mise en espace de la peinture comme mise en lumière. Mise en lumière aussi, je dirais, à un niveau homologique, aux questions de mettre en lumière, à la mise en question de la peinture, dans son sens, je dirais, signifiant de comment mettre en lumière une mémoire qui serait à la fois individuelle et collective, occasionnée non pas par un formalisme indépendant des lieux, mais d'une dépendance à un devoir, je dirais, d'écho, de mise en écho de ces lieux et du sens peut-être non visible à ces lieux. Je veux dire, dans ce sens, que c'est aujourd'hui un déplacement aussi, pas seulement horizontal, géographiquement horizontal, mais en profondeur sur, je dirais, des niveaux de forage archéologique.
Oui, parce que vous êtes une artiste qui nous invitait à regarder en bas. Généralement, on regarde en face de soi ou en haut, mais regarder en bas, c'est très rare.
Regarder en bas, c'est regarder au fond. Est-ce que c'est en bas ou au fond ? Je crois que c'est peut-être dans cette profondeur de ce qu'est le regard, de pouvoir à la fois voir la surface.
Comme s'il n'y avait pas que la surface.
Et les fondations.
Ce que vous nous offrez à voir, et notamment là dans cette nouvelle exposition au Carré Sainte-Anne à Montpellier, c'est au-delà de ce qu'on voit de la surface, il y a peut-être, par-delà votre travail artistique, encore autre chose à voir.
Oui, absolument. Et il y a une mise en écho. Une mise en écho des profondeurs des lieux, qui dépasse complètement, je dirais, mon entendement, parce que c'est justement à Montpellier, il y a un travail vraiment de mise en volume, qui est en partenariat avec une agence d'architecture, l'agence Schéma, où j'ai vraiment travaillé dans une collaboration de compétences pour amener les questions d'œuvre dans l'œuvre, de la lettre iod à la lettre initiale du prophète. D'où est tirée cette fameuse vision qui est présentée à l'intérieur de ce module architectural, qui répond avant tout à des questions de cette église, cette ancienne église, ce lieu, le Carré Sainte-Anne, qui est une église du 19e, qui est néo-gothique, mais qui a été elle-même, et ça c'est en intuition et non pas en préconceptualisation de ce projet, que on arrive à une mise en espace qui devient de l'in situ, d'une réponse réelle au lieu qui a été fondée sur une histoire très particulière qui fait écho à d'où vient, je dirais, le projet antérieurement, c'est-à-dire son origine polonaise.
Vous qui avez commencé avec des tulipes, donc avec du travail très figuratif, vous faites maintenant des sortes de sculptures de lumière. Ô combien métaphysique, est-ce que vous avez l'impression d'être la même, Carole Benzaken ?
Je passe d'une fleur à une autre fleur. Cette exposition à Montpellier est une exposition de passage, de l'ombre à la lumière. On est dans une module architectural qui est sculpture, et la peinture y est présente, puisqu'on passe d'une face sombre, d'une face anthracite, on traverse une œuvre dans une autre, dans un espace où la lettre est marqué, mais par son emphase architecturale, c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre iod, et on sort pour arriver à de nouvelles fleurs, la fleur du magnolia. Alors ce qui était hallucinant et étonnant, et je dirais signifiant, mais je dirais sans métaphysique, c'est de l'ordre de l'intuition des artistes et pas du tout de quelque chose qu'on contrôle et qui est sûrement métaphysique en même temps, mais je dénie ce type de mots pour définir ce projet. Mais il se trouve que cette pièce Magnolia, c'est un travail déjà de longue haleine, de quelques années. C'est une série sur des fleurs qui ont été, je dirais, motivées par la sortie, une réelle sortie d'un travail donc très long sur Ça vive, sur
la vision d'Ézéchiel 37, et la fleur de magnolia étant cette fleur qui jaillit de branches caduques, de branches noires de l'hiver, sans feuilles. Et à cet endroit, à l'endroit où a été placée, cette pièce, Magnolia, dans le carré Sainte-Anne, se trouve dans la rue latérale une plaque dans cette rue qui rend hommage au grand botaniste du XVIIe siècle, Pierre Magnol, d'où le signe, le nom du Magnolia est issu. Donc c'est assez étonnant comme projet, puisqu'il dépasse très largement, je dirais, la question de la forme, et de la forme de ces fleurs. Mais en même temps, ces fleurs, je les ai toujours pensées comme la réelle résurrection à ce long projet, je dirais, à la fois pénible et insoutenable, qui était ce projet de mémoire sur la terre polonaise, de repenser à l'instar d'une mémoire qui ne serait pas une mémoire d'un pays, mais de nos origines, je dirais, différentes. Je pense à la Pologne comme à la France. Cette mémoire européenne, métissée, qui doit faire ce travail, qui est un travail, je dirais, unissant les mémoires et non pas les stigmatisant. Et c'est un travail sur, effectivement, tous les massacres des peuples et un travail de résurrection, de penser comment penser l'impensable, de la possibilité d'une terre qui porterait à la fois le pire et la pensée impossible prophétique, mais en même temps inscrite textuellement comme un bâton d'aveugle dans un chemin obscur où il y aurait une lumière possible au final, non encore perceptible. Et à cet endroit même se situe, je dirais, le creusement de ce qu'est la représentation. Mais en même temps, voyez un petit peu la migration de ce projet à Sainte-Anne est une migration fertile qui rend écho aussi à la mémoire de la ville de Montpellier. Avez-vous ses origines aussi hébraïques.
Avez-vous l'impression, en vous écoutant, Carole Benzaken, que le fait d'être artiste vous mène de plus en plus vers une sorte de spiritualité ?
Je ne crois pas dans ce mot, qui est un petit peu un sac où on met un petit peu tout. Je crois beaucoup au texte, je crois beaucoup à la poétique, je crois beaucoup au chant et à la musique. Je voudrais vraiment que les questions d'espace soient motivées aussi par des questions de lumière, des lumières qui sont mises en écho aux ombres des espaces, mais aussi aux ombres des refoulés des mémoires. Et à cet endroit, en fait, je ne pense pas que ça soit une exposition purement spirituelle, mais c'est une exposition et c'est qui fait écho à une autre exposition en Pologne qui a lieu actuellement au musée silésien, qui s'appelle aussi Mimamakim, le début d'un psaume, le psaume 130 de David. C'est un travail de profondeur, mais d'altération de la question de la poétique et du chant, et comment ces textes immémoriaux peuvent rendre compte de l'histoire individuelle, mais aussi de l'histoire temporelle des gens. Donc c'est une anti-spiritualité, c'est une anti-mystique dans le sens, dans un sens où, en fait, c'est un questionnement à l'aujourd'hui, mais aussi à l'hier, dans ce basculement sans fin de l'un à l'autre, comme nos propres vies.
Ben merci, Carole Benzaken. Je rappelle qu'on peut voir la plupart de votre travail dans les musées, mais qu'en ce moment même, on peut le voir à Montpellier, dans ce lieu qui s'appelle le Carré Sainte-Anne. Merci à Élodie Royer, Corinne Amard, Julien Rosa, Cédric Châtelus, Anne Kobilac, Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture.